toujours sur Radio Canu, vous venez d'entendre Dubs Syndicate, Sound Clash, puis vous avez entendu Clarence Wheeler and the Enforcers, un titre qui est Right on Atlantic, et puis El Gran Silencio, Rigon Mofino.
Pensons qu'entre autres fonctions, ces médias se livrent à une propagande qui sert les intérêts des puissantes firmes qui les contrôlent en les finançant et dont les représentants sont bien placés pour orienter l'information. Une telle intervention est généralement assez subtile. Elle passe par la sélection de tout un personnel bien pensant et par l'intériorisation chez les journalistes et les rédacteurs de certaines définitions de ce qu'il convient d'imprimer en priorité, conformément à la ligne politique de l'institution.
Right and what is wrong?
Garde les yeux grands ouverts.
Les bras ouverts, les yeux grands ouverts.
Qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne sait pas ce qui se passe. Et justement, c'est ça qui se passe, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe.
Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire. On n'a pas de but ni vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul.
J'avance les yeux grands ouverts.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon.
Excusez-moi, c'est une mauvaise blague.
Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas ?
Camarades, d'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne ce que le mercurochrome est à la jambe de bois.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission des yeux grands ouverts, enfin les yeux grands ouverts. Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 FM à Lyon. Et juste avant, c'était la causerie, et là, c'est les yeux grands ouverts qui démarrent. Alors, ce soir, nous allons continuer pour la quatrième fois d'évoquer les médias dans leur ensemble. Ce soir, le thème qu'on va essayer d'attaquer plus en profondeur, c'est les effets que peut avoir la propagande qui est déversée tous les jours à nos oreilles par les médias classiques, je dirais les médias de masse, que ce soit télévisuel ou à la radio ou bien aussi dans les journaux. C'est quelque chose qui est très difficile à déterminer réellement parce que parfois on a l'impression que certaines informations sont captables, que cette influence est palpable. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a des fois il y a des informations contradictoires et ça, je vais l'évoquer un peu plus en profondeur dans la suite de l'émission. Tout d'abord, avant de commencer à lancer l'émission sur ce petit thème, je voudrais rappeler que nous avons une page Facebook qui s'appelle Les Yeux Grands Ouverts. Donc vous la retrouverez sur le fameux réseau social. Nous avons également une boîte mail qui s'appelle Les Yeux Grands Ouverts, tout attaché bien entendu avec des S de partout, @laposte.net. Voilà, que dire de plus, depuis peu nous avons également le blog où vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'émission. C'est sur le site de Radio Canu, pour ceux qui pensent qu'ils vont peut-être galérer à le trouver. Vous allez sur le planning de l'émission, sur la programmation de la radio, vous cliquez sur Les Yeux Grands Ouverts et vous tombez directement sur le blog avec tous les articles et tous les podcasts qui sont posés sur le blog. Voilà. Alors, on a évoqué les médias depuis 3 émissions. On l'a évoqué par différents biais. On a essayé de s'attaquer à plein d'aspects. On s'est un peu référencé à certains intellectuels. Enfin, pour ma part, je sais que là-dessus, je me suis largement appuyé sur les études de Pierre Bourdieu. Notamment, je rappelle son bouquin qui s'appelle « Sur la télévision ». Également, je me suis beaucoup inspiré de l'intellectuel américain Noam Chomsky, qui a fait énormément de documentaires. Pour ceux qui ont soif de comprendre un peu comment fonctionne le système médiatique, n'hésitez pas, vous allez sur tous les sites de diffusion de vidéos et vous tapez Noam Chomsky, vous trouverez tout un tas de films qui sont en VO sous-titrés avec ce célèbre linguiste qui essaye de décrypter la manière dont fonctionnent les médias. Voilà pour la petite intro. Alors, on va continuer, je disais donc, à approfondir ce thème. Donc, sur les précédentes émissions qui sont podcastables, on s'est attardé surtout sur les modes de financement, mais aussi on a essayé de démontrer les vices du système, la fourberie, le manque de pluralité, les intérêts des divers médiacrates qui traînent dans tous ces médias et qui les squattent, même, on pourrait dire. Les intérêts de classe aussi, quant à la situation financière des grands journalistes ou qu'on peut mettre en exergue par rapport à la situation de petits pigistes qui ont forcément du mal à faire un travail de fond puisqu'ils sont aussi tributaires du fait qu'ils doivent manger à la fin du mois. On s'est attaqué aussi lors de la dernière émission à l'aspect plus sociologique, donc c'est tout à l'heure j'évoquais Pierre Bourdieu, en observant le manque d'ouverture sociale qu'il peut y avoir dans le champ journalistique, la précarité qui est donc ce que je disais qui pousse certains journalistes à ne pas être très pertinents puisqu'il faut bien qu'ils vendent leur papier à certains journaux. Voilà, ils finissent par être à cause de ça un petit peu à la botte des patrons de presse, etc. Forcément, puisqu'il y a un pouvoir financier qui est énorme dans la grande majorité des médias. Il y a énormément de choses à se dire sur ce sujet et même avec ces 4 émissions, on n'a pas l'impression d'avoir tout évoqué. Tout ça est trop large et occupe trop de place dans notre société. Il y a donc des tas d'aspects à évoquer, mais bon, arrivé à un moment donné, je pense que 4 émissions, ça commence à être un peu long et sinon on va finir par tourner en rond. Après avoir traité tout ça, et j'espère que je vous ai brossé un tableau qui vous a éclairé un minimum sur la nature de ce que sont les médias de masse aujourd'hui et qui sont les personnes aussi qui les occupent et qui les font vivre en général, et j'espère avoir un peu évoqué les détails et décrypté un peu tout ça. Ce soir, on va donc essayer de déterminer, bien que ce soit comme j'expliquais dans l'introduction de l'émission, on va essayer de déterminer les influences, bien que ce soit super compliqué. Et on va essayer de comprendre jusqu'à où cette influence peut imprimer notre esprit critique. Comment ça va se traduire dans nos réactions, etc., etc. Et à travers, nous allons évoquer, quelque peu évoquer l'affaire du temps de parole aussi. On va brièvement l'évoquer. La conclusion que l'on peut tirer sur les effets est très divers en fonction des événements qui se déroulent et selon la propagande qui est déversée dans les médias. On sait que le traitement médiatique, notamment pour les élections, favorise souvent certains candidats. Lors d'une des précédentes émissions, dans un passage des Chiens de garde que je vous ai diffusé, Feu Michel Naudy évoquait le fait que les patrons de presse poussaient derrière un candidat tant que ce dernier garantissait leurs intérêts et que dès que l'un de ces candidats présélectionnés devenait gênant, car trop impopulaire ou alors qu'il était suivi par la justice ou selon les aspects qui pouvaient gêner la candidature ou le personnage, il n'hésitait pas à le descendre et à passer à un autre cheval, puisque ce qu'il voulait, c'était garantir les intérêts et pas spécialement être derrière un homme. Chose que l'on constate très rapidement en réfléchissant 5 minutes sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe en ce moment ou ce qui se passera peut-être certainement plus tard, puisque c'est pas vraiment en voie de changement, on va dire. En 2007, par exemple, la presse a léché Nicolas Sarkozy, tout le monde s'en souvient, puis elle l'a lâché et puis elle l'a lynché à la fin. Et elle a commencé par soutenir DSK pendant le mandat de Nicolas Sarkozy. Soutenir implicitement, bien entendu, c'est pas grossier, ils sont beaucoup plus malins que ça. Ils font passer les informations de manière implicite. Alors comment ils l'ont soutenu? Comment on peut déjà arriver à se rendre compte et arriver à faire ressortir ces informations-là? Comment est-ce qu'on a soutenu ce personnage de Dominique Strauss-Kahn? On a entendu dire à plusieurs reprises, notamment des intellectuels comme Étienne Chouard, que la réussite d'un politique et le nombre de votes en sa faveur était énormément proportionnel au temps d'apparition dont il bénéficie dans les médias. Il y a des courbes qui sont sorties là-dessus, je j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on constate que c'est hallucinant et que c'est carrément que ça corrèle complètement. Mais s'il n'y a pas besoin de sortir de Sciences Po pour savoir ça, que le fait d'être très médiatisé est garanti, entre guillemets, hein, ça ne garantit jamais, mais ça offre une possibilité supérieure d'avoir du temps des voix et des suffrages plus importants. On le sait, donc il n'y a pas besoin de sortir de Sciences Po. On se rend compte, de toute manière, en regardant un peu ce qui se passe dans les médias modernes, que le PS et l'UMP monopolisent les médias. Et que forcément, pendant les élections, malgré tout ce qui s'est passé dans l'histoire politique de ce pays, il caracole en tête toujours. Si ce n'est lors des dernières européennes, bien entendu, hein, mais on peut aussi constater qu'une abstention énorme a fait l'élection aussi à côté de ça, et surtout que le FN a bénéficié de beaucoup de temps de parole. Donc finalement, c'est pas complètement... ça corrèle aussi. Ce qui d'ailleurs, au fait... Le fait que le FN ait eu énormément de temps de parole dans les médias lors des européennes a d'ailleurs donné l'occasion au CSA de taper sur les doigts de radios comme RMC ou de BFM TV, la chaîne, qui donnait trop de temps de parole au FN et pas assez aux candidats divers candidats du front de gauche et de la gauche, je dirais, alternative. Alors comment favorise-t-on un candidat? Je vais illustrer en parlant de DSK. Donc, pendant le mandat de Sarkozy, on n'a pas arrêté de parler de lui parce qu'il était au FMI. D'ailleurs, il a été au FMI parce qu'il a été conseillé par Nicolas Sarkozy, hein, pour dire à quel point ils sont totalement en désaccord sur la politique qu'ils veulent mener. Dans tous les sens où on l'évoque dans ses fonctions, on n'a pas arrêté de parler de lui tout le temps. Dans énormément de papiers, on parlait de lui. En plus, on parlait de lui en des propos forcément dithyrambiques. Hein. Il y a même un truc énorme que j'ai vu dans un documentaire. Dans Libé, on lâche des choses sur DSK. On l'appelle DSK le sauveur de l'économie mondiale. Rien que ça. C'est assez incroyable quand même. On sait très bien qu'en plus c'est lui qui menait la politique qui est en train d'étrangler toute l'Europe, qui est lui qui était aux baguettes, et on dit sauveur d'économie mondiale. Il y a quand même un sacré paradoxe. Et ça ressort énormément pour ceux qui connaissent un peu dans un film de Pierre Karl qui s'appelle DSK Hollande, etc. D'ailleurs, en parlant au passage de Pierre Karl, je recommande chaudement toute sa filmographie. Il y a énormément de choses, et là vraiment on démasque en profondeur et on coince certains médiacrates, et on se rend compte que vraiment il y a une sacrée censure qui tourne dans ce milieu-là. Donc DSK, je reviens à nos moutons. On le présente sous un jour sympathique, par exemple, pour essayer de le favoriser. Par exemple, à l'époque du mandat de Nicolas Sarkozy, quand il était président du FMI, sur Canal+, ils ont sorti un documentaire qui s'appelait Un an avec DSK. Alors dans lequel on le voit manger, ranger sa maison, jouer avec des amis, squatter avec sa femme chez lui, etc. Jouer au foot, même à des moments, avec ses collègues de bureau, etc. Évidemment, on va pas nous le montrer dans sa villa luxueuse à Marrakech ou dans ses belles voitures ou dans les grands restaurants où il peut certainement aller manger. Évidemment, on ne va pas nous le montrer dans ces situations-là, parce que comme disait un intellectuel qui s'appelle Roland Barthes dans Les Mythologies, il est super facile de faire croire au peuple que les aristos qui ont du sang bleu ne sont pas des privilégiés, et pour cela il suffit de les montrer en train de se raser pour les faire passer pour des gens ordinaires. Ils se rasent comme nous, alors ça veut dire que quelque part ils sont un peu comme nous. Alors c'est ce qu'on tente de faire avec DSK. Voilà, on le met dans des situations favorables où il passe pour quelqu'un de super simple et de banal au final. En plus de ces reportages, on invite Anne Sinclair, ce qui était sa compagne encore à l'époque, de partout, dans tous les talk shows, etc. En fait, ce qu'elle faisait, c'était le boulot de porte-parole de son mari. On fait des débats entiers. Il y a une séquence qui est énorme aussi, où elle est invitée au grand journal, Anne Sinclair, et pendant 20 minutes, on la serine pour lui dire oui, s'il vous plaît, limite, c'est encore une fois un peu tacite, mais ah, s'il vous plaît, il faut que Dominique Strauss-Kahn se présente, etc. Enfin bon, c'est comme ça que ça ressort. Donc il y a des débats entiers aussi qui étaient organisés autour de dans les talk shows où c'était dédié que à la personne de DSK. C'était est-ce qu'il va se présenter, etc. On ne tarit pas d'éloges sur ses performances d'économiste au passage. On n'arrête pas de dire oui au FMI, il fait quelque chose d'énorme. Et puis c'est quelque part ça le légitime, parce que ça veut dire que c'est une personne qui maîtrise énormément l'économie s'il est nommé dans un organisme aussi important que le FMI. Alors que cet homme, on sait très bien par exemple qu'il a mené une politique catastrophique pour les peuples. Donc on va réussir à, comme ça, à infuser dans la société des messages et faire passer cet homme pour un homme bien, même si personne ne le connaît et on parle jamais du fond de la politique qu'il mène. Et ça, c'est constatable. Par exemple, en 2010, il y a un sondage qui est sorti, alors que cet homme s'était fait laminer, par exemple, aux primaires du PS en 2007 par Ségolène Royal. Un sondage IFOP sort en 2010. Alors, la question du sondage, hein, c'est ça aussi qu'il faut remarquer, c'est que, bien sûr, les sondages ne veulent pas toujours dire grand-chose, parce que comment est posée la question, la manière dont est posée la question, influence forcément la manière dont on va répondre. Donc, la question qui était posée dans le sondage IFOP, c'était: quelle personne de gauche est le plus capable de faire gagner la gauche, selon vous? Alors, il y avait DSK qui était à 62%, Aubry à 22%, Ségolène Royal à 8% et François Hollande à 5%. Alors, Hollande, on ne sait même pas s'il existait à l'époque, mais comme chacun sait, il va finir par prendre du terrain par la suite grâce à un sacré coup de pouce des médias et d'autres circonstances. DSK, il est mis en avant jusqu'à l'événement qu'on sait, hein. Mais malgré tout, il occupe tous les médias et tous les sujets de conversation des éditorialistes de l'époque. Personne ne nous parle d'une petite chose pas évidente à assumer pour un homme qui se prétend de gauche et qu'on va essayer d'évoquer. On écoute François Ruffin, qui est un journaliste qui travaille à Fakir, au Monde Diplo aussi au passage, et qui est un ancien comparse de Là-bas si j'y suis, qui n'existe plus, malheureusement. On écoute un petit scoop sur... Enfin, un scoop, ce n'est pas un scoop, sauf que personne ne l'évoquait à l'époque. On écoute ce que François Ruffin a à nous dire sur Dominique Strauss-Kahn.
Moi, ce qui m'a le plus marqué dans tout le traitement de DSK, c'est qu'au fond, on sait tout. Je parlerai pas de sexe, mais je parlerai d'argent. En 1993, quand il va perdre son poste de ministre de l'Industrie, on sait qu'il convoque 35 patrons du CAC 40 pour les faire défiler dans son bureau et que chacun lui remette un chèque à partir duquel il va fonder le Cercle de l'Industrie. Qu'est-ce que le Cercle de l'Industrie ? C'est un lobby qui doit promouvoir l'industrie française à Bruxelles. Et tous les mois, Dominique Strauss-Kahn fait dans des grands restaurants, fait des réunions publiques avec ses grands patrons, qu'il met en contact des commissaires européens, des responsables de l'OMC, et ainsi de suite. Il sert d'intermédiaire. Et il est payé pour ça. Il est payé via aussi une boîte de consultants. Ce sont les patrons qui lui ont payé sa secrétaire, qui lui ont payé son local, à côté de Publicis. Ce sont les patrons qui lui ont payé sa vie. Il reçoit 2 millions de francs d'Alcatel. Il reçoit 1,5 million de francs d'EDF. Il reçoit 600 000 francs de la Cogema, donc c'est le nucléaire. Il reçoit 500 000 francs de la Sofres. Et plus tard, c'est là que ça va poser problème, il reçoit 603 000 francs de la MNEF. Mais tout ça, ce sont pas des données secrètes. Ce sont des données publiques. Ce sont des données publiques, par exemple, on a un bouquin là qui s'appelle Lévy caché de DSK, qui est sorti au moment où il a eu des ennuis judiciaires. Et ben, dans ce bouquin, il est très clairement expliqué ce que je vous raconte sur le cercle de l'industrie. Simplement, moi, ce qui m'étonne, c'est la capacité d'amnésie du système. C'est-à-dire que tout ça, on le sait. C'est dans un bouquin, ça a été dans des articles, ça a été publié par tous les trucs au moment où il est dans le caca de la MNEF. Mais quand il se représente 15 ans plus tard, c'est oublié.
François Ruffin, donc le rédacteur en chef du journal Fakir, qui explique donc que malgré le fait, encore une fois, que dans les médias, on le mettait tout le temps en avant, on n'a jamais évoqué ça. Encore une fois, on voit que les médias ne mentent pas, hein, le but c'est pas de tomber dans la parano, mais on voit clairement qu'ils orientent comme bon leur semble l'info, ils font... Enfin, si on veut dire comme... Et en fait, ils font quelque part du mensonge par omission. parce qu'ils ne demandent pas directement, ils racontent pas n'importe quoi non plus, mais il y a plein d'aspects qu'ils vont jamais évoquer et ils espèrent que ces choses-là vont passer à la trappe. Pourtant, le matraquage va continuer sur DSK hein, pendant cette période, en parlant de tout sauf des petites choses comme ça qu'on devrait savoir sur des hommes qui sont censés décider à notre place. Donc le matraquage va continuer sur DSK jusqu'à l'affaire du Sofitel qui va aussi envahir l'espace médiatique durant des mois et des mois. Hein. Comme si rien n'était plus important que ça, évidemment. À la suite de cette affaire, la popularité de DSK, forcément, elle en prend un sacré coup. Elle s'effondre même. Et là alors, la classe médiatique s'est retrouvée face à un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Le risque couru en laissant les choses en l'état, c'était de se retrouver avec un vrai mec de gauche au pouvoir. Hein, mais bien sûr, ils voulaient surtout pas ça. Eh bien, on va aller chercher le dernier de la classe, hein, celui qui était assis aux côtés du radiateur, là, et qui servait absolument à rien, qui était à peu près sur la même ligne politique que le pépère d'avant, le social-libéral, et on va le mettre sur le devant de la scène à la place de DSK. On va le présenter comme le mec sympathique, en répétant à droite et à gauche qu'il est sympa, qu'il fait souvent des blagues, qu'il a été premier secrétaire du PS pendant 10 ans, sans trop évoquer le fait que toute l'aile gauche du parti, et même une partie classique, très classique du Parti Socialiste, le déteste. À l'époque, c'était vraiment... Il y a des séquences incroyables qui sont sorties où on voyait Arnaud Montebourg, ou même Fabius, qui est loin d'être une référence, qui disait que cet homme était sans intérêt. On va prendre donc la même méthode que pour DSK dans tous les éditoriaux, en le mettant en avant de manière ostensible, en oubliant presque les autres candidats à la primaire, hein, on parle toujours du même. Si vous regardez un peu, c'est une séquence aussi qui est dans le film de Pierre Carle où c'est énormissime. On voit la une du journal Libération, qui est un peu un tract du Parti Socialiste, hein. Et on voit la veille du dernier tour des primaires, où il reste donc les deux finalistes, Aubry et Hollande. La une, c'est Aubry peut-elle le battre, avec Aubry qui est caché derrière Hollande et François Hollande qui est en pleine lumière. Bon, ça s'est clairement orienté, quoi. Alors, pour illustrer tout ça, on va écouter Maurice Safran, il va le dire mieux que moi, et puis sans que ce soit sujet à débat, parce que lui, il est carrément les mains dans le cambouis, comme on dit, il est carrément dans le milieu des médias. Il est rédacteur en chef du journal Marianne. Il est interviewé par une journaliste belge envoyée par l'équipe de Pierre Carle. Il est d'abord interrogé de manière formelle, hein, il le sait, tout se passe bien, il y a la caméra qui tourne, on lui pose des questions, on essaye de le pousser un peu dans ses retranchements, bon, il dit qu'il est pas d'accord sur certains points. Et après le coup de téléphone, l'interview est censée être terminée, il sait pas que la caméra tourne encore, et allez savoir pourquoi, il se lâche, il en dit même trop. Ma théorie là-dessus, mais je peux me tromper, hein. Et je veux pas que ce soit mal interprété non plus, mais je crois qu'il est peut-être légèrement intéressé par le fait que son interlocutrice est une jeune journaliste plutôt jolie, alors il échange avec elle, afin de lui prendre ses coordonnées avant qu'elle s'en aille. Et donc il va se lâcher un petit peu trop, et il va dire un peu trop de choses, et des choses que certainement il vaudrait mieux que ça ne soit pas su.
Et est-ce que vous, à Marianne, vous avez clairement indiqué que vous aviez une envie de défendre un candidat plus qu'un autre à un moment donné ?
Non.
Vous affichez clairement quand même un soutien. Ici, M. Dominac écrit « Il servirait encore mieux la France en France qu'à l'étranger. On l'attend, on l'espère, plus que tous les autres. »
Mais c'était la situation, oui. Les sondages et les études d'opinion montraient très clairement que les Français voulaient Dominique Strauss-Kahn. Si ce qui s'est passé au Sofitel a provoqué un tel choc dans la société française, c'est pas totalement par hasard.
Est-ce que vous pensez pas que c'était, donc ici le titre c'était « Quand les Français fantasment sur DSK ». Vous pensez pas que c'était plutôt un enthousiasme journalistique ? Est-ce qu'il y avait vraiment dans l'opinion publique ?
Non, mais je ne crois pas à ce que vous dites. Ouais. Je ne crois pas à ce que vous dites. Je pense que c'est totalement faux. Vous ne me ferez pas dire le contraire. Je ne pense absolument pas que la presse crée des phénomènes. Vous pouvez le penser. Je pense le contraire.
Dans le Marianne de cette semaine, donc à la fin, la publicité pour le journal, vous écrivez « Si des médias qui, à 98%, pensent et disent la même chose, ne vous suffisent pas, abonnez-vous à Marianne. » Donc vous vous présentez quand même comme un journal différent.
C'est à la télé et à la radio, je pense. C'est aux grands médias de masse. Les grands médias de masse, effectivement, disent et tiennent les mêmes discours. La seule certitude maintenant, c'est que Hollande sera au second tour. Ça, c'est... Oui, Catherine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me rappeler dans 5 minutes, il y a des amis qui me quittent, là. Je vous rappelle tout de suite.
Et là il ne sait plus qu'il est filmé.
Puis Hollande. Moi, je crois que ça n'a pas beaucoup d'influence, mais c'est notre point de désaccord. DSK puis Hollande ont été les candidats de la presse. Ça, c'est juste. Ils ont été soutenus par les éditorialistes, pas pour les mêmes raisons. Strauss-Kahn pour des raisons idéologiques, parce qu'ils ont considéré, les éditorialistes sont plutôt de droite, ils ont considéré que c'est une gauche qui leur convenait.
Oui, c'est
voilà.
Ça.
Et Hollande parce qu'il l'aime bien depuis longtemps. C'est un type sympathique, très sympathique, plutôt cultivé, drôle, etc. etc. Donc entre Aubry et Hollande, la presse a plutôt soutenu Hollande. Hein. L'Obs a soutenu Hollande. Nous, on a plutôt soutenu Hollande. Libé a plutôt soutenu Hollande. Le Monde a plutôt soutenu Hollande. Et la presse de droite a plutôt soutenu Hollande. Ça, c'est exact. Je crois que ça ne change pas grand-chose. Mais ça, c'est exact.
Vous avez une carte, quelque chose ?
Oui.
Assez souvent sur Bruxelles.
Petit dérapage, excusez-moi. Et je trouve que c'est assez incroyable ce qu'il raconte là. Il dit oui, tout ça, les éditorialistes sont plutôt de droite. Ils ont considéré que Dominique Strauss-Kahn, c'était une gauche qui leur convenait. C'est quand même assez fou d'entendre ce genre de truc. Tant mieux quelque part qu'ils le disent, au moins c'est clair, on l'a entendu, mais là c'est concret et ça fait un peu flipper quand même. Voilà donc le candidat de la presse, François Hollande, et il le dit clairement, il le met en avant. Les choses sont plus claires, les médiacrates donc choisissent les personnages qui les intéressent le plus politiquement. Et DSK Hollande, c'était parfait pour eux, pour les petits journaux bourgeois du petit écran, pardon. Le statu quo, c'était représenté par ces deux personnes-là. Et voilà comment s'exerce la démocratie dans notre pays. C'est magnifique, non ? C'est exceptionnel. Alors, donc ces candidats, ils ont monopolisé le temps de parole, hein, soutenu par les trois quarts de la presse, évidemment. On pourrait m'objecter que depuis tout temps, l'objectivité est une vue de l'esprit, hein, que les journalistes ont forcément un parti pris, car ils sont des êtres humains comme vous et moi, faits de chair et de sang, influencés par leurs ressentis et leurs intérêts. Je suis d'accord, pourquoi pas. Mais alors qu'on ne nous jette pas à la figure en permanence la prétendue impartialité des journaux et des médias, si elle n'est pas vraie, quoi. Que chacun s'engage à soutenir quelqu'un, pourquoi pas, personne n'est contre. Mais c'est fait de manière dissimulée et subreptice et ça a un côté vicieux. Surtout le problème, c'est que tous les journaux choisissent toujours entre les deux mêmes candidats. C'est ça aussi le souci pour la démocratie. Des journaux pro Mélenchon, pro Joly, pro Poutou, il y en a quasiment pas, ou alors que de très marginaux. Et alors je parle même pas de la télé et de la radio où là ces personnages-là on les entend jamais parler, ou alors que très rarement. Et ou alors aussi pendant les trois dernières semaines avant l'élection présidentielle, car à ce moment-là, ça contraint les médias à respecter un certain temps de parole. Donc forcément, là, ils sont obligés de leur donner la parole. Le seul qui arrive un peu à se faire entendre en dehors de ces périodes, là, c'est Mélenchon, par exemple. C'est celui qui est le plus invité dans cette gauche critique, car comme il a une grande gueule, les médias le considèrent comme un bon client qui peut faire de l'audimat. Alors, appâté par leur besoin de faire du profit et d'être regardé absolument par le plus large public, ils l'invitent contre leur propre intérêt au final. Mais comme disait Lénine, les capitalistes vont nous vendre la corde pour les pendre. C'est violent, hein, je suis désolé. Mais bon, c'était histoire de faire une petite référence. C'est pas pour autant que je me référence à Lénine ou quoi que ce soit, hein, mais c'était un petit bon mot au passage. Alors, on va se passer de la musique. Vous avez eu les prémices tout à l'heure. Hein. Je suis désolé, j'ai un petit dérapage doigtal. Et je vous envoie un morceau de métal qui s'appelle Curl of the Burl et c'est du groupe Mastodon.
Yeah.
Vous êtes toujours dans Les Yeux Grands Ouverts sur Radio Canu, 102.2 FM. Et nous sommes toujours en train d'évoquer le thème des médias. Alors nous avons passé un petit morceau qui s'appelle Curl of the Burl du groupe Mastodon. Nous étions en train d'évoquer l'affaire des temps de parole un peu de loin par rapport à l'audimat que peuvent faire certains candidats, et on les invite en fonction de ça et pas en fonction de ce qu'ils ont à dire. Alors forcément, plus on est présent dans les médias et l'influence se ressent complètement dans les votes, ces candidats qui monopolisent la parole et qui en plus bénéficient de l'appui des chiens de garde, hein, on parlait notamment de François Hollande, de Sarkozy ou même de DSK, finissent par être familiers et sympathiques à une partie des gens qui finissent par leur donner leur suffrage. Donc malgré la diversité des propositions politiques au premier tour qu'on a dans l'élection présidentielle, soit 10 candidats en 2012, on se retrouve avec le PS et l'UMP qui font 28 et 27 au premier tour, soit plus de la moitié des votants qui votent pour eux. Et encore, je vous épargne François Bayrou qui fait 9, mais qui bénéficie d'un peu moins de temps de parole, mais qui au final est de la même famille politique puisque c'est un libéral aussi. Alors on peut dire qu'en fait que 64% des personnes qui votent pour un programme libéral qu'ils ont vu énormément à la télé. Le boulot de matraquage médiatique, il finit quand même par porter ses fruits quand on réfléchit bien. Mais bien heureusement, ce n'est pas si simple. Les médias peuvent être pris aussi à leur propre piège. Et dans certains cas, il peut arriver que leur propagande n'arrive pas à imprégner l'opinion publique. Laissons Noam Chomsky, pour le coup, nous donner son point de vue. La question lui est posée par un certain Daniel Mermet de l'émission « Là-bas si j'y suis ».
Je voudrais qu'on commence, Monsieur Chomsky, à parler des médias. Je voudrais qu'on évoque une élection qu'on a eue en France en mai 2005. On a eu un référendum sur le traité de constitution européenne. La majorité des médias était pour le oui à ce référendum. Or, le vote a été non. 55% des Français ont voté non. Et quand on analyse le vote, on s'aperçoit très rapidement que c'est aussi un non aux médias.
Well, first of all, the work that Edward Herman and I did on manufacturing consent doesn't say anything about the effect of the media on people.
D'abord, le travail que Ed Herman et moi avons fait sur la fabrique du consentement n'aborde absolument pas les effets des médias sur le public.
Now, this is a complicated topic which has not really been investigated in any depth, but the few studies that have been carried out indicate that for the more educated sectors, the media are very influential.
Il n'y a pas eu de recherche en profondeur beaucoup sur ce sujet-là, mais celles qui ont été menées montrent qu'en fait, l'influence la plus importante est sur la population la plus éduquée.
But for the general population, they seem to be far less influential.
Alors que la masse de la population a l'air d'être beaucoup moins marquée et influencée par les médias.
So one striking illustration of that in the United States is that there is an enormous gap between public opinion and educated opinion. And educated opinion corresponds to public policy. Yeah. So that means that there is a huge gap between public policy and public opinion.
Il y a un fossé, par exemple, aux États-Unis entre l'opinion publique générale et celle des gens éduqués. Et celle des gens éduqués, leur opinion correspond, recouvre celle de la politique générale qui est menée, qui montre qu'il y a un écart d'autant plus important avec la masse de la population par rapport à ses orientations.
So, for example, let's take a current issue, say a possible war with Iran.
Pour un exemple précis, par exemple, la guerre éventuelle contre l'Iran.
The population is overwhelmingly opposed. About 75% of the population thinks we should end all threats against Iran.
75% de la population, c'est-à-dire son écrasante majorité, est contre cette guerre et contre toute menace militaire contre l'Iran.
And think we should move to diplomatic relations and negotiations.
Et qu'on devrait privilégier des négociations et une voie diplomatique.
In fact, it turns out that Iranian public opinion, which has also been studied by Western agencies, Iranian public opinion and American public opinion are almost identical on any nuclear-related issues.
Il y a même des recherches qui ont prouvé que l'opinion publique iranienne, comme l'opinion publique américaine, se retrouve presque parfaitement sur ces questions nucléaires, en tout cas.
So, in both countries, overwhelming majorities think that Iran should have nuclear energy but no nuclear weapons, that there should be a nuclear-free zone in the whole region, from Iran to Israel, including American forces deployed there, and that nuclear weapons should be eliminated.
Voilà, l'écrasante majorité de la population des deux pays trouve que l'Iran devrait avoir un nucléaire civil, mais pas de nucléaire militaire. Il devrait y avoir une zone sans engin de guerre nucléaire qui irait d'Israël à l'Iran et qui comprendrait aussi les troupes américaines basées dans la région.
And that they should eliminate all nuclear weapons in the world.
Et que toutes les armes nucléaires devraient être éliminées dans le monde entier, pour le coup.
You'll have to look very hard to find anything in the media that expresses that view.
Et pour trouver ces représentations de cette opinion dans les médias, faut s'accrocher, faut chercher très loin.
And in the political parties, it's not a position.
Et c'est une position qui n'est reprise par aucun parti politique.
In fact, if Iran and the United States were functioning democracies, in which public opinion played a role in public policy, this issue would probably be solved.
Et si les États-Unis, par exemple, l'Iran étaient des démocraties qui fonctionnaient et qui prennent en compte l'opinion publique, c'est une question, un enjeu qui ne sera pas un.
Et pourtant, si.
Et il y a beaucoup d'autres exemples de ça.
Voilà le petit extrait de Noam Chomsky, interviewé par Daniel Mermet. Il explique très bien, par des petits exemples, les positions du peuple sur l'Iran, par exemple, que les médias n'ont pas réussi à influencer. Tout le monde, enfin, comme quoi l'influence des médias a ses limites aussi. Pourtant, on entend dire à longueur de journée que l'Iran, tout ça, etc. Il faut faire attention, pas les laisser utiliser le nucléaire. Et on se rend compte que l'opinion publique n'a pas du tout le même avis que les médias. Certaines idées donc font leur chemin dans les têtes, mais sur d'autres personnes, ça ne fonctionne pas. Il y a des personnes qui ne se laissent pas tromper. Il évoque aussi un point intéressant. Selon lui, les médias auraient plus d'influence sur les personnes éduquées que sur les classes populaires. C'est un point à étayer. J'ai ma petite théorie là-dessus. Peut-être parce que cette classe qui est instruite a la chance d'avoir le décodeur pour tout assimiler de ce qui est évoqué dans les médias. Par exemple sur les questions économiques, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, selon les études qu'on a faites ou non. Peut-être que c'est... que comme cette classe est éduquée aussi, elle a forcément eu la possibilité d'accéder à un statut confortable qu'elle veut défendre et prend la posture médiatique comme pour se garantir d'en rester aussi. Ou alors elle a été formatée. Les grandes écoles par lesquelles passent les personnes qui ont étudié finissent par imprégner un point de vue dans les personnes et une ouverture aux médias traditionnels qui a un effet à long terme. Il y a certainement plein d'autres possibilités à ce sujet, j'en évoque juste quelques-unes qui me passent par la tête. Difficile de déterminer ce qui engendre ça en fait, chacun peut avoir son avis là-dessus. Même si parfois on se dit que les médias n'ont pas le dernier mot sur la vie des gens, on sait qu'ils ont une influence diffuse. Les discours redondants peuvent agir avec efficacité ou non, selon le débat qui est soulevé. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. On l'illustre encore avec un document qui traite de l'insécurité et comment le Front National peut se retrouver au deuxième tour alors qu'il n'a pas bonne presse du tout. On sait très bien que dans les médias il est pas vraiment encensé. C'est ouvert donc ce petit document audio par un interview tendu de Jean-Michel Apathy qui avoue à mi-mot être un chien de garde, puisqu'il ne s'en défend pas en tout cas. L'avis encore une fois de François Ruffin qui suit. Et il y a aussi un sociologue qui s'appelle Laurent Bonelli. Et tout ça donc va être illustré, sociologue qui va donner son avis sur ce qu'il pense de l'influence des médias. Tout ça sera illustré par le journal télé de TF1 du 23 novembre 2001. Les sujets qui passent sont passés en accéléré, mais vous allez voir que les lancements que fait Claire Chazal, on comprend exactement comment est mené le journal ce jour-là, vous allez voir, c'est édifiant comme le malaise vient s'installer chez vous sans que vous n'ayez rien demandé à personne.
Ça fait 40 minutes qu'on discute là. Pour rien. Vous allez en couper la moitié, les trois quarts. Vous allez garder exactement ce qu'il veut. Ce qui va aller dans le sens que vous voulez donner à votre papier.
Vous êtes journaliste aussi, monsieur. C'est-à-dire, vous savez qu'on fait des montages.
C'est-à-dire. Mais oui, mais vous m'auriez dit au téléphone, monsieur, vous êtes un chien de garde, et c'est en tant que tel que je vais vous interroger. Je vous aurais dit oui ou je vous aurais dit non. Mais pas dit ça. Mais pas dit ça, pas du tout. Mais il dit, oh, vous êtes l'un des seuls à avoir pris position contre le temps de parole. Ça nous intéresse. Mais je ne dis pas que c'est faux.
Mais vous défendez votre
mais
position.
L'interview, c'est pas ça. L'interview, c'est. Vous êtes un chien de garde, justifiez-vous. Expliquez-vous. C'est ça l'interview. C'est là qu'il fallait me dire au téléphone. Mais il m'a dit ça. Et non, parce que si on m'avait dit ça, j'aurais répondu oui, j'aurais répondu non. Enfin,
vous auriez répondu oui.
Mais peut-être, parce que ça m'aurait peut-être amusé. Mmh. J'en sais rien. Je suis pas parti là. Vous voyez, je n'ai pas dit vos questions, c'est. Je m'en vais. Mmh. Je suis resté, j'ai répondu à tout. Mmh. Voilà. Et j'ai répondu avec franchise. Mmh. Mmh. J'ai pas dit, ah oui, peut-être vous avez raison. Oui, oui. Non, je. Voilà.
Non mais on va synthétiser, on va.
Ah non non, synthétiser rien. Non non, vous avez tout. Non 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 non.
D'accord.
Non non non, on va finir. Non non.
D'accord.
Soit vous avez une autre question. Enfin, on progresse, on va pas synthétiser, on va pas recommencer l'interview. Les deux avancent. Hein, non, stop. Oui. Vous avez une question pour finir ou vous avez une question nouvelle, une question autre chose qui vous avez lu autre chose
Ah oui, oui, on a beaucoup lu. Quelle liberté reste-t-il aux électeurs pour se faire une opinion sur d'autres choix de société? Quand 75% du temps de parole, comme l'a écrit le CSA d'ailleurs, que reste-t-il aux autres visions de la société?
Comme je suis coopératif avec vous, hein, et comme tout ça va aller à la poubelle, je voudrais juste vous alerter sur une chose. Mm-hmm. Sur le pouvoir relatif du journalisme. Parce que il y a plusieurs biais dans vos questionnements. Plusieurs. Certains sont faux. Il ne s'agit même pas de discuter d'idéologie. Celui qui est fondamentalement faux, c'est le pouvoir que vous prêtez aux journalistes. Si les journalistes avaient du pouvoir, comme vous dites, comme vous le pensez, si le fait qu'ils répètent le catéchisme libéral jour après jour pouvait imprégner l'opinion publique, les défenseurs du système qu'ils sont pouvaient garantir l'opinion publique de tous les dérapages. Si ça existait, Jean-Marie Le Pen en France n'aurait jamais été qualifié au deuxième tour d'une élection présidentielle. Jamais.
C'est peut-être en opposition à ce...
Jamais. Eh bien, vous voyez que l'opinion publique est plus autonome, qu'elle se construit différemment.
Mmh. Alors, je crois que c'est absolument certain qu'en 2002, la plupart des médias, en 2002 et après d'ailleurs, la plupart des médias sont hostiles à Jean-Marie Le Pen et à sa formation politique, pour tout un tas de raisons assez évidentes, je dirais, qui représentent tout ce qu'ils abordent sur tout un tas d'aspects. Bon. En même temps, et c'est sans doute ça qui est intéressant pour 2002, c'est que on peut être sincèrement contre Jean-Marie Le Pen, et en même temps, le traitement ordinaire de l'information, tel que l'ont mené les médias durant cette période-là, a très clairement contribué à l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour. Bon, si on regarde la campagne présidentielle, telle qu'elle se lance, par exemple, à partir de début janvier 2002 jusqu'à mai, c'est-à-dire le moment de l'élection présidentielle, on s'aperçoit que si on regarde les journaux télévisés des principales chaînes d'information générale, on a plus de 20 000 sujets sur cette période, c'est-à-dire un peu plus de 1 000 par semaine, qui concernent les crimes, les viols, les violences urbaines, l'action policière.
L'été dernier, vous vous en souvenez peut-être, une dizaine de communes avaient instauré un couvre-feu pour les moins de 13 ans. La ville d'Asnières a décidé d'aller encore plus loin, puisqu'elle interdit non seulement la circulation des jeunes sans leurs parents entre 23h et 6h du matin, mais aussi les regroupements agressifs des moins de 16 ans le jour. Ce couvre-feu avait déjà été instauré dans plusieurs villes comme Orléans, Nice ou Étampes. Il est resté en vigueur tout le temps des vacances scolaires. Alors a-t-il permis de rendre plus sûrs certains quartiers? Quels résultats a-t-on obtenu en matière de sécurité urbaine? Plus d'un Français sur deux se sent en insécurité, selon un sondage CSA pour l'Humanité Hebdo à paraître ce week-end. Et puis une nouvelle attaque de fourgon blindé à Toulouse. Le camion Ben a été bloqué par une dizaine d'individus cagoulés et fortement armés.
Et en fait, ce que vont faire les médias sur cette période, c'est très important, c'est qu'ils vont contribuer à créer, à fabriquer des images de notre société, notamment des banlieues, comme des espaces coupe-gorge, des espaces dans lesquels finalement la République est en danger. On a des choses qui sont des évidences fausses, scientifiquement, qui vont devenir vrais à force d'être répétés. On va nous dire, par exemple, des délinquants de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. La tolérance zéro à New York, ça marche. Bon, tout ça, c'est faux. Mais ça va devenir vrai, parce que c'est répété, d'éditorial en plateau de télévision, d'émissions de radio, en chronique hebdomadaire. Bon. Et dans ce contexte-là, évidemment, on peut être tout à fait contre le Front National, je dirais, de la manière la plus sincère. Je dirais, dès lors qu'on joue avec les systèmes de clivage qui sont ceux du Front National, le Front National en profite, dans une certaine mesure, presque mécaniquement.
N'attribuez pas aux journalistes un pouvoir qu'ils n'ont pas. Ce n'est pas nous qui faisons les rapports de force dans la société. Détrompez-vous, ce n'est pas nous. Coupez tout ça, mais réfléchissez-y.
Vous ne pensez pas que le fait de répéter les mêmes idées chaque jour et d'inviter les mêmes hommes politiques n'influe pas sur les électeurs?
Eh bien, vous me posez la question. Je vous réponds non.
Peut-être qu'ils n'ont pas la capacité de décider qui va être élu. Et que ça peut même se révéler contre-productif. On en arrive à un moment dans l'esprit des gens qu'à partir du moment où les journalistes se positionnent comme étant noirs, eh ben, ils vont avoir peut-être tendance à répondre blanc. Ça peut être vrai. Maintenant, il y a quand même une capacité. Il faut sortir du choix des personnes sur le terrain politique. Il y a une capacité à nous faire baigner tous dans un bain idéologique. Un bain idéologique où c'est pas possible de faire autrement que l'austérité salariale, que les réformes, que en sortir de la rigidité du marché du travail. Bon, là-dessus, il y a un travail qui est fait, qui est un travail quotidien et qui, je crois, fonctionne largement. Le travail de résignation, d'imposer le fatalisme, de « il n'y a pas d'alternative », de « le seul problème aujourd'hui, c'est de régler le déficit de l'État ». Je pense que là, il y a un travail d'imposition de normes idéologiques qui fonctionne, ce qui ne veut pas dire que derrière, ce qu'ils nous imposeront comme candidature sera celle qui sera choisie. Mais ceci dit, le bain dans lequel ils nous font baigner, c'est ça.
Vous êtes toujours dans les yeux grands ouverts, donc on entendait François Ruffin qui nous donnait un petit peu son ressenti sur l'influence des médias et éventuellement le fait qu'il ne pouvait pas forcément faire gagner un candidat, mais qu'il faisait baigner les gens dans un bain idéologique qui aseptisait le débat et qui leur faisait croire qu'il n'y avait aucune alternative possible. Voilà. Alors, il y a aussi le petit passage qui est énormissime, celui où on entend les extraits du journal de 20h de TF1, présenté par Claire Chazal, où en fait ils enchaînent les passages, les infos un peu anxiogènes, en parlant d'insécurité en fond, quoi. Interdiction des regroupements agressifs, etc. D'ailleurs, faudrait qu'il nous explique exactement ce que c'est qu'un regroupement agressif. C'est-à-dire à partir du moment où on est un groupe, donc ça doit être si on est deux ou si on est trois, je sais pas numériquement, je sais pas comment ça se passe. Mais à partir du moment où vous êtes deux, on est susceptible de venir vous demander, bon, vous êtes agressif ? Oui, et ben non, vous avez pas le droit. Alors voilà, donc c'est complètement stupide. Alors la conclusion qu'on peut tirer, d'après ce que vient de dire François Ruffin. Moi, je trouve que c'est quand même assez clair ce qu'il dit et je m'en rapproche complètement. C'est vraiment le pouvoir d'influence est diffus, il est pas direct sur nous, mais ils peuvent nous influencer directement que dans certains cas. Et en tout cas, ils nous font baigner dans un bain qui finit par à détruire notre sens critique en fait. Mais il y a des fois où le peuple est assez intelligent pour se rendre compte que on a un sens critique aiguisé et qu'on essaye de nous vendre une connerie. Je pense par exemple pour le cas du référendum de 2004, hein, la majorité des médias étaient pour le oui, on le sait tous très bien, implicitement bien entendu, hein. La majorité des gens se sont rendus compte en fait que les médias penchaient violemment pour le oui, une forme d'agacement les a fait s'y opposer. Déjà comme disait Daniel Mermet dans le petit extrait qu'on a passé, c'était aussi un non aux médias, mais aussi, il y a des questions concrètes aussi qui se mettent en place, mais c'est surtout que les gens se sont rendus compte que on leur vendait une Europe à visage plus humain, une Europe sociale depuis 20 ans, et que la situation faisait que se dégrader. Alors au bout d'un moment, le choix il s'impose de lui-même, c'est que non, on nous vend encore une connerie, on essaye encore de nous avoir, on nous dit qu'il faut rentrer encore plus dans l'Europe pour que ça s'arrange, et plus on rentre dedans et plus on s'enlise. Alors les gens ils sont pas stupides, au bout d'un moment ils finissent par voter non, quoi, même si on essaye de leur faire croire le reste. Alors voilà, c'était pour débriefer un peu de ce que nous disait je vais y arriver, François Ruffin là-dessus. On va se passer un petit morceau, hein, un petit groupe de rap fait maison, comme on dit. Le groupe NTM, c'est un de leurs morceaux le mieux, selon moi. C'est le titre de ce morceau, c'est « Mais qu'est-ce qu'on attend ?» hein. Et d'ailleurs, je vous le demande, qu'est-ce qu'on attend ?
Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace. Plus tard, est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne
les séquestrer, mais c'est tout comme c'est comme de nous dire que la France avance alors qu'elle pente. Par la répression, je co-pénètre la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens, écho. Ne régleront pas les cas d'urgence à coup sûr. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer, ça fait déjà les années que tout. T'aurais dû péter, dommage que l'unité n'ait été de notre côté. Mais vous savez que ça va finir mal. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce
qu'on attend pour faire ça?
Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu?
Comme le fait la société,
c'est un fait, mais
il est temps que cela cesse. Faire face à l'allégresse pour que notre jeunesse d'une main vengeresse
brûle l'État.
Policier en premier, hey. On voit la République brûler au même bûcher. Notre tour est venu à nous de chanter les dés. Décidez donc, mentalement de s'équiper.
Quoi?
Tes miroirs, tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas. Je crois plutôt que tu ne t'accordes pas vraiment le choix.
Beaucoup
sont déjà dans ce cas.
Voilà
pourquoi cela finira dans le désarroi.
Désarroi, déjà roi.
Le monde rira l'en élection.
Désarroi, déjà roi.
Vous subirez la même pente. Agonisante, c'est pourquoi j'en attends trop. Putain de politiques incompétentes. Ce qui a diminué la France. Donc là n'est plus à l'indulgence, mais au fait par le feu, ce qui à mes yeux semble être le mieux. Faut qu'on nous prenne un peu plus en sérieux. Il est temps que la France daigne prendre conscience de toutes ses offenses. Face de ses hontes, des leçons à mon compte. Mais quand bien même la coupe est pleine, l'histoire l'enseigne, nos chansons vaines.
Alors arrêtons-nous.
Plus tôt que cela traîne ou ne traîne, même encore plus de haine. Une édition ne pourra s'inérer ce système.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire
Je vous le demande alors, qu'est-ce qu'on attend? Bref, nous allons continuer donc l'émission. Je rappelle que vous êtes toujours sur Radio Canus en 102.2 FM. On vient d'écouter NTM avec Mais qu'est-ce qu'on attend? Que dire de plus? On peut ajouter le fait que... Je vais ajouter le fait que l'émission Les Yeux Grands Ouverts a un blog sur le site de Radio Canus. Vous le trouverez si vous cliquez sur la prog, sur la plage horaire des Yeux Grands Ouverts. Il y a également une page Facebook, Les Yeux Grands Ouverts. Et une boîte mail lesyeuxgrandsouverts@laposte.net. Il faut aussi signaler, comme tout à l'heure il a été dit dans la causerie, que le Radio Canu lance un appel aux dons pour réussir à se payer des locaux, puisque en ce moment la radio est un petit peu étranglée par le prix des loyers qui augmente. Alors l'idéal ce serait de pouvoir prendre un autre local à nous et voilà, de pouvoir s'affranchir d'un loyer qui finit par nous étrangler. Alors je vous rappelle que pour donner les dons, alors que je retrouve l'information, je cherche un petit peu dans les papiers. vous pouvez aller déjà sur le site de Radio Canu tout simplement. Et sinon, il y a une adresse, vous envoyez vos dons à Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 Lyon CEDEX 01. Voilà, on est très très ouvert aux dons pour garantir aussi notre indépendance au passage. Alors nous allons terminer un peu l'émission sur les médias. On en était aux influences qu'on essaye de déterminer. On disait que ça n'était pas toujours productif pour les médias d'essayer de bourrer le crâne des gens. Dans certains cas, ça n'avait pas les effets escomptés. Mais il y a des fois où ça fonctionne plutôt bien, en tout cas dans l'ambiance dans laquelle nous font baigner les médias. Alors il est vrai que pour certaines personnes qui s'impliquent seulement de loin ou dans la vie politique, les médias ont forcément de l'influence, qu'ils soient instruits ou non, hein, d'accord. Quand vous entendez matin et soir les mêmes rengaines sur la litanie libérale, qu'aucune alternative n'a le temps pour exposer son point de vue en profondeur, puisqu'il faut faire de l'audimat, qu'on met des débats en scène comme un espèce de match de boxe qui ne permet pas aux personnes d'exposer leur point de vue en profondeur, ce qui peut rendre le message difficile à assimiler, surtout si les idées sont complexes et nouvelles. C'est aussi un simulacre de démocratie. Puisqu'avant de s'exprimer sur le fond de ce qu'elle veut engager, une alternative, elle doit d'abord se débattre dans la mélasse qu'on a laissée avant par toutes les conneries qui ont été dites. Je donne un exemple, Noam Chomsky l'explique un peu comme ça. Si je dis par exemple « Kadhafi est un terroriste », j'ai besoin que de 4 secondes pour le dire, tout le monde a compris ce que je voulais dire, tout le monde l'a entendu des milliers de fois, il n'y a rien à expliquer de plus, le message est passé, les explications, même si parfois elles sont fallacieuses, les explications qui squattent les médias en permanence, on fait le travail, l'assimilation est effectuée. L'idée a déjà été reçue, et elle porte bien son nom, c'est une idée reçue. Alors que si jamais je veux dire que contrairement à ce qu'on dit, Kadhafi n'est peut-être pas le pire des terroristes de l'histoire, car avant lui il y a un tas de responsables de la CIA qui sont des vrais tyrans et qui ont fait plus de morts que lui au final, on va me prendre pour un fou si j'essaye de le dire en 4 secondes. Parce que il faut arriver à démonter avant, il faut la prise de temps pour démontrer les poncifs ancrés dans les consciences. Donc lorsqu'une personne qui propose une alternative effectue un débat avec un installé du système médiatique, ils sont pas à armes égales en fait. Car il faut comprendre que le temps d'expliquer les choses nouvelles, qui peuvent être complexes, sans être interrompues tout le temps, c'est forcément compliqué. Et on a en plus l'alternative à un retard d'antenne à rattraper, parce que on n'a jamais l'occasion de s'exprimer quoi. Il est compliqué de savoir réellement jusqu'où l'influence des médias nous imprègne, hein, mais la question qu'on est en droit de se poser surtout, c'est comment s'en affranchir, comment échapper à tout cela. J'espère que ce que j'ai dit juste avant est assez clair sur le fait que quand une nouvelle alternative se présente dans les médias, il est compliqué pour elle de se faire entendre correctement et de manière concise, parce qu'avant elle doit s'occuper déjà de démonter tous les a priori et tous les poncifs de l'idéologie dominante. C'est pour ça que c'est compliqué pour certaines personnes d'arriver à s'exprimer dans les débats. C'est par exemple pour cette raison aussi que beaucoup d'intellectuels refusent les débats. Pas parce qu'ils sont contre la démocratie ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils en ont ras-le-bol d'arriver dans des émissions où il y a 10 personnes autour de la table. Eux, ils ont à chaque fois 2 minutes pour essayer d'exprimer leur point de vue, et avec toutes les conneries qui ont été dites avant, il faut déjà qu'ils s'occupent de démonter et de déconstruire tout le discours dominant, et forcément le temps est trop limité, et puis surtout ils se font cogner par les 9 personnes qui sont en face. Donc c'est pas tellement possible et c'est pas agréable. Je sais que notamment Pierre Bourdieu, qui était considéré comme un sociologue très médiatique, refusait pourtant énormément d'invitations dans des émissions parce qu'ils trouvaient que c'était pas constructif. Voilà, donc j'ai refait un petit peu un résumé de ce que j'ai dit avant pour que ce soit plus clair, j'espère que ça l'a été. Alors, comme je disais, il est difficile de savoir l'influence que peuvent avoir les médias sur nous, mais la question qu'on est en droit de se poser, c'est comment s'en affranchir. Il faut, je pense, pour ma part, se prémunir contre ça. Tout croire et ne rien croire sont deux aspects qui nous dispensent de réfléchir. Dans les deux cas, c'est trop facile. Tout croire bêtement ou ne croire en rien et basculer dans une espèce de théorie du complot et ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut, c'est écouter en recoupant attentivement et se méfier de la forme que les médias donnent aux choses. Chomsky nous le conseille en ces termes. Pour se prémunir et faire preuve d'autodéfense intellectuelle, vous devez imaginer que les médias vous considèrent comme un ennemi. Chaque information que l'on vous transmet doit aiguiser votre sens critique et vous devez y réfléchir. La forme sur laquelle on vous l'envoie doit être sujet à question pour vous. Le mieux, je crois pour ma part, c'est d'éviter les médias de masse en fait, et de s'informer auprès d'une presse libre qui n'est pas détenue par des banquiers comme Libé ou Le Monde, mais d'essayer de trouver une presse alternative, comme ça peut être le cas par exemple sur Lyon, il y a Rebelle Lyon ou des trucs sur internet. Il y a par exemple, pour ce qui est beaucoup plus je dirais, centralisée, qui est beaucoup plus, enfin, dans les médias de masse, il y en a quand même certains qui sont un minimum alternatifs. Il y a les trucs qui sont sur Internet, genre Mediapart. Il y a aussi une émission qui s'appelle Arrêt sur Image, mais c'est encore un autre problème. Il y a le monde diplomatique aussi. Bon, bah, par contre, ça, c'est un mensuel, et puis c'est vrai qu'il est très dense, donc c'est difficile d'arriver à s'informer uniquement avec ça. Il y a le journal que j'évoquais tout à l'heure au sujet de François Ruffin, qui est Fakir. Donc c'est bien d'essayer de s'informer plus par le biais de ces médias-là pour éviter de baigner dans cette ambiance idéologique et d'éviter aussi toutes les infos anxiogènes, tous les faits divers qui occupent une grande partie, une place très importante dans les médias en permanence, qui finissent par nous faire paniquer et nous déstabiliser, nous faire ressentir une espèce de sentiment d'insécurité et qui peut être très mauvais conseiller. Donc par le biais de ces médias-là, on peut être plus lucide, puisque finalement, on s'écarte un peu de cette ambiance malsaine qui peut être véhiculée dans les médias classiques. Et quand on est confronté aux médias de masse, donc c'est comme je disais, l'info est imprégnée par cette idéologie. Donc, si on écoute trop souvent ça, on finit par perdre le recul qu'on peut avoir. C'est pour ça que la transition va être magnifique pour la semaine prochaine, l'émission que nous allons faire. C'est une émission qui va essayer de nous apprendre à utiliser les armes contre la propagande médiatique. C'est encore une fois, je suis désolé, je me référence souvent aux mêmes personnes. C'est Noam Chomsky qui évoque ça, qu'il appelle l'autodéfense intellectuelle. C'est-à-dire comment se prémunir contre les attaques permanentes de la propagande dominante, comment arriver à recouper sans tomber dans la paranoïa. Le problème dans tout ça, c'est que en fait la seule chose qu'il faut se poser, comment comprendre les vices qui peuvent être utilisés pour nous faire gober certaines choses, comment les démasquer, comment s'en protéger. C'est donc ce qu'on va essayer d'entreprendre la semaine prochaine. Le cours d'autodéfense intellectuelle, il y a un bouquin qui est sorti là-dessus, écrit par Normand Baillargeon, qui est un intellectuel québécois, qui habite à Québec même, il me semble. Et donc, c'est lui qui était énormément inspiré par Noam Chomsky aussi, et qui, un jour, s'est posé la question, mais c'est vrai que Noam Chomsky évoque souvent l'autodéfense intellectuelle. Il l'évoque aussi en disant que la première chose qu'on devrait apprendre aux gamins à l'école, c'est justement à se prémunir, et on devrait leur donner, plutôt que de leur bourrer le crâne avec des bêtises, on devrait leur apprendre à se défendre intellectuellement, on devrait leur donner des cours d'autodéfense intellectuelle. Et en entendant ça, Normand Baillargeon s'est posé la question et s'est dit, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce cours-là? Comment on pourrait le faire? Comment on pourrait le construire? Et il a décidé d'écrire un bouquin là-dessus qui est super intéressant et que je recommande chaudement à tout le monde. Vous cherchez, si vous voulez, sur Internet ou même dans certaines librairies, je pense qu'il doit être disponible. Il s'appelle Le petit cours d'autodéfense intellectuelle. C'est un petit livre qui doit faire, je sais pas, 200 pages et qui nous apprend énormément de choses. Il y a, d'un côté, on essaye de déconstruire les discours médiatiques classiques, la forme qu'ils peuvent prendre. Et puis, il y a aussi des informations à la fin du livre un peu éparpillées, qui touchent un peu à tout et qui permettent de comprendre le vice qui peut imprégner les médias pour tenter de nous influencer. Voilà pour ce qui se passera la semaine prochaine dans Les Yeux Grands Ouverts. Grands ouverts d'ailleurs, faisons la liaison, hein, c'est important. Et nous allons terminer cette émission en passant encore un petit morceau avant de se quitter. Et donc ça, c'est un morceau qui illustre un petit peu ces quatre émissions qu'on vient de faire sur les médias. Et c'est un morceau du groupe Kabadzi qui s'appelle Lâchons-les, qui parle un petit peu de ce qu'on peut être quand on passe son temps devant la télé comme un abruti. Voilà, en avant.
Écrans, ils sont comme ces nuées de papillons blancs que l'ampoule envoûte. Et les morts télévisés deviennent aussi insignifiants que les publicités. Regarde-les bien, qu'ils baisent, qu'ils bossent, qu'ils mangent, qu'ils marchent, ils dorment. Lâchons-les, lâchons tout. les rues quand on vote comme un con. Ça dit oui, ça dit non. Idéaux en girouette. À ma droite, la maison, à ma gauche, la pension. Et après, ça s'étonne, ça se plaint plus. Je connais l'homme plus. J'aime les chiens, ça s'étonne, ça se plaint plus. Je connais l'homme plus. J'aime les chiens. Lâchons-les, lâchons tout, fuyons. Lâchons-les, lâchons tout, fuyons. Soyons fous. Lâchons-les, lâchons tout. Lâchons-les, lâchons tout, fuyons. Lâchons-les, lâchons tout, fuyons. Soyons fous. Lâchons-les, lâchons tout. Ça veut de l'immédiat, exister sans idée. Ça prend pas position, aboyer dans un stade, aduler un biceps, crier. On a gagné alors qu'on est resté le cul devant sa télé. Quand on donnera à la pensée ce qu'on donne au ballon, oui. On aura sauvé la nation, mais pour l'instant, ça s'étonne, ça se plaint plus. Je connais l'homme plus, j'aime les chiens, ça s'étonne, ça se plaint plus. Je connais l'homme plus, j'aime les chiens, ça s'étonne, ça se plaint plus. Je connais l'homme plus, j'aime les chiens.
Vous êtes toujours dans les yeux grands ouverts, il est la fin de l'émission et je vous signale donc que vous pouvez toujours contacter par le biais du blog ou même de la boîte mail, etc., etc. La semaine prochaine, ce sera donc le petit cours d'autodéfense intellectuelle qui occupera le temps de notre émission. J'essaierai de vous faire relayer ces petites informations, certainement par le biais de documents audio et aussi par mon biais. Je vous souhaite donc tous une excellente fin de soirée, certainement une très bonne nuit, et je vous dis à la semaine prochaine et amour et révolution. Voilà, bonne soirée à tout le monde, salut, ciao.
Merde, ça sert à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni vraie place. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux.